la plus rebelle des radios.
Et ben on n'a que 8 minutes de retard, car c'est maintenant qu'on retrouve un 68-art, c'est comme ça qu'on dit ?
C'est plutôt péjoratif aujourd'hui, mais un ancien de participant au mouvement de 68, je préfère.
Donc toi, tu étais étudiant, tu t'appelais
Jeff ? Ouais, j'étais étudiant en droit et sciences politiques en première année, donc en droit sur le campus de la DOA qui venait d'ouvrir quelques années auparavant.
Et tu vas nous raconter donc tous les mardis et les vendredis un petit peu ce qui s'est passé en mai 68 à Lyon.
Oui, alors je vais commencer aujourd'hui par un petit peu le pré-68, c'est-à-dire dresser un peu l'ambiance dans les lycées et les facs dans les quelques années qui précèdent. Alors tout d'abord dans les lycées, parce qu'on se rend pas compte aujourd'hui, enfin surtout les lycéens ne peuvent pas vraiment se rendre compte de l'ambiance de l'époque. Je vais commencer par deux petites anecdotes typiques des lycées lyonnais à cette époque-là. Alors une anecdote que j'ai vécue personnellement qui date de 64 et qui a été une sorte de premier combat que j'ai mené avec ma mère d'ailleurs sur les cheveux longs. J'étais au lycée du Parc et en troisième, et un jour le censeur est venu me trouver, m'a interpellé relativement violemment dans la cour pour me dire que si le lundi suivant je ne me présentais pas avec une coupe réglementaire, alors qu'à l'époque j'avais une coupe entre ligne Escudero et McCartney, et ben je serais viré, etc. Et bon, donc je suis rentré raconter ça à ma mère, qui aussitôt s'est précipitée sur le téléphone pour appeler l'administration du lycée et leur rappeler une certaine réserve par rapport à la liberté de comportement. À partir du moment où j'ai les cheveux propres, ils pouvaient être de la longueur que je désirais. Et ça a été donc une sorte une première victoire à l'échelon de l'époque, de revenir le lundi avec la même coiffure et de me présenter dans le bureau en affirmant un certain nombre de droits, etc. Et depuis, on n'avait plus été emmerdé sur cette question, au moins dans ce lycée. Une autre anecdote du même type, encore plus significative, puisqu'elle a duré, enfin c'était des, on avait des exemples jusqu'en mars 68. Moi, à cette époque, j'étais un petit peu spécialisé entre guillemets pour le travail auprès des lycéens et des futurs cales, parce que j'étais qu'en première année et je connaissais beaucoup d'élèves de prépa, de classe préparatoire, donc j'allais les voir, et donc j'allais très souvent au lycée Édouard Herriot, qui s'appelait Edgar Quinet à l'époque. Et donc, dans ce lycée d'Ohio, on pouvait voir encore la proviseure se tenir à l'entrée du lycée avec un chiffon dégueulasse. Et toutes les filles qui étaient maquillées ou trop maquillées se retrouvaient démaquillées avec le chiffon. Voilà donc pour marquer l'ambiance, indépendamment du fait aussi que les lycées étaient non mixtes. Il y avait très peu de lycées mixtes. Le lycée Brossolette, qui était récent à Villeurbanne, était mixte, mais pas les autres grands lycées. Donc il y avait des correspondances entre des lycées de garçons et des lycées de filles. Par exemple, Edgar Quinet était un lycée de filles, le lycée du Parc était un lycée de garçons. Il y avait qu'en classe prépa qu'on mélangeait donc les genres. Voilà pour disons des anecdotes de lycée. Autrement, donc dans les facs, donc ce qui était nouveau et qu'on va retrouver à Nanterre aussi dans la région parisienne, ce qui était nouveau, c'était le phénomène des campus. Alors les campus, bon, c'était un peu sur le modèle américain, quoi, de regroupement de grandes masses d'étudiants. Alors pourquoi ces campus ? Parce qu'en fait, dans plusieurs villes de France, les bâtiments universitaires des centres-villes se retrouvaient débordés par le phénomène de massification un petit peu de l'enseignement supérieur. Il faut dire qu'on est au début une sorte de démocratisation de l'enseignement. Bon, c'est un début, mais ça commence quand même à changer un petit peu les choses. Il y a des masses d'étudiants, de nouveaux étudiants qui se retrouvent concentrés donc dans des nouveaux locaux, puisque les anciens n'y suffisent plus. Et donc, de la même façon qu'à Nanterre, on va avoir ce campus de Nanterre d'où va partir le mouvement du 22 mars et ensuite mai 68, on a la même chose dans d'autres villes, et par exemple à Lyon, dans le campus de la Doua. Alors les caractéristiques de ces campus, c'est d'être des lieux, des sortes, ce qu'on appellerait des zones, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont construits à proximité de sortes de bidonvilles. Alors à Nanterre, c'est très net, il y a le bidonville de Nanterre qui jouxte pratiquement la fac. Et à la Doua, sans qu'il y ait de véritable bidonville à cet endroit-là, le bidonville est plutôt à Bonnevay, sans qu'il y ait de véritable bidonville, il y a beaucoup d'habitats délabrés, beaucoup de gens très pauvres, et puis aussi de gens un peu marginalisés, et c'est donc une ambiance un peu particulière, surtout le soir. Bon, disons que c'est souvent un quartier dit un peu craignos, on y entend des coups de feu, etc. Autre caractéristique des campus, c'est qu'ils sont à moitié finis, toujours, donc on est un peu dans la boutasse quand il pleut ou l'hiver. Et puis, autre caractéristique, c'est une très forte concentration parce que il y a aussi les cités, des cités qui ont été construites, donc il y a ces cités universitaires qui vont être aussi donc délocalisées en quelque sorte. Certaines étaient au centre-ville et elles vont être dans le... Il va y en avoir deux à la Doua. Et ces cités sont des viviers un petit peu de vie étudiante. Ce qui semble plus être le cas aujourd'hui. Ces viviers vont permettre de créer aussi une agitation. Il faut savoir que dans les cités universitaires, l'agitation date de 1965, où la cité universitaire d'Antony, la grande cité universitaire d'Antony dans la région parisienne, mais aussi les cités universitaires de Montpellier, La Doua, etc. Les résidences universitaires de La Doua et de Montpellier sont en grève sporadiquement sur des questions de vie, qu'on dirait aujourd'hui de vie quotidienne, disons grosso modo contre les résidences casernes, le fait qu'on puisse pas, le règlement intérieur empêche les visites des garçons et des filles dans les locaux de l'autre sexe, etc. Donc il y a aussi cette agitation qui va gagner ces résidences universitaires. Donc on a un ensemble d'éléments, il y a une certaine vie étudiante qui est différente de celle, par exemple, de la vie du quartier latin, qui était une vie tout à fait particulière à la vie parisienne. Par contre, en province, donc, on a cette vie étudiante qui se développe aussi à partir de ce phénomène des campus. Alors, autre particularité pour la Doua, c'est la présence donc de l'école de l'INSA sur le campus de la Doua. Alors l'école de l'INSA, c'est une école d'ingénieurs, mais une école un peu spéciale, puisque c'est d'abord une école de sciences appliquées et non pas de sciences pures, ce qui pour l'époque est relativement nouveau. Qu'on n'y entre pas sur concours, mais sur dossier. Et que ça change quand même la clientèle de l'INSA. Les étudiants de l'INSA sont des étudiants plutôt d'origine populaire et qui viennent souvent du sud de la France. Autre caractéristique de l'INSA qui explique aussi peut-être la réactivité des étudiants de l'INSA, c'est que l'INSA a développé un département dit des humanités, et que donc l'enseignement de sociologie, par exemple, y est dispensé. Alors, autre caractéristique de ce campus, c'est que le campus est en fait réservé aux jeunes étudiants. Donc ça va avoir plusieurs conséquences, c'est-à-dire que sur le campus se trouvent essentiellement des étudiants de premier cycle, c'est-à-dire des étudiants qui sont en première et deuxième année, les troisième et quatrième années et les thésards se trouvant au centre-ville. Alors ça a une conséquence, enfin en tout cas ça va créer une sorte de petit clivage au départ, c'est que d'abord les gens qui sont sur les campus se connaissent et vont avoir un petit peu des rapports de proximité et sont un peu plus coupés des étudiants plus anciens du quai, et ils n'ont pas non plus les mêmes références. C'est-à-dire que soit ils sont moins politisés, soit quand ils sont politisés, ils le sont d'une manière un peu différente, puisqu'ils le sont de façon peut-être un peu plus spontanée, ils sont moins encartés, ils sont moins dans les organisations, ou alors ils sont dans des organisations qui ne sont pas de véritables organisations, mais qui sont des comités qui peuvent regrouper donc des gens qui sont justement fixés sur une organisation, mais qui participent plutôt à des fronts ou à des choses qui regroupent les gens plutôt que ne les séparent. Donc parmi les exemples que je peux donner d'agitation sur les campus, par exemple, il y a les participations au comité Vietnam national ou au comité Vietnam de base, ces deux comités étant les deux comités qui encadrent un peu la lutte contre la guerre du Vietnam. Le comité Vietnam national étant un comité plus ou moins noyauté quand même par les étudiants du PSU, qu'on appelle les ESU, et puis par en principe les trotskistes de la JCR, mais les trotskistes de la JCR n'existent plus en tant que tels dès 67, dès fin 67, et j'y reviendrai. Les comités Vietnam de base, eux, sont plutôt noyautés par ce qu'on appelle les pro-chinois, mais enfin, ils regroupent aussi des gens qui veulent faire de l'agitation sur ce problème de la guerre du Vietnam. Autre élément qui vient regrouper un petit peu les gens, c'est une sorte d'antifascisme de base. Il y aura plusieurs affrontements avec les fascistes sur le campus entre 67 et 68. Et en tout cas, il y a des participations à des manifs antifascistes, comme une manif qui aura lieu peu avant mai 68 contre une réunion qu'avait prévue le général Van Huxem au centre-ville. D'autres manifestations animent le campus, qui sont aussi des manifestations qui regroupent des gens de tendances différentes, comme par exemple les manifestations alors il y a les manifestations pour la paix, qui sont en général elles dirigées par le Parti communiste français, et on y participe assez peu, mais par contre les gens de tendance libertaire ou anarchiste, puisque le mot de libertin ne s'emploie pas encore trop à l'époque, vont très souvent participer aux manifestations du MCAA, c'est-à-dire un mouvement contre l'armement atomique, qui est un mouvement assez large d'opposition à l'armement atomique et qui n'est pas noyauté par une quelconque organisation. Donc une de ces manifestations du MCAA servira un petit peu de répétition à disons la fondation du mouvement du 22 mars à Lyon. C'est ce genre de groupe donc ce genre de manifestation qui se passe sur le campus dans les deux années qui précèdent mai 68. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut dire comme point commun de ces différentes actions, et même celles auxquelles participent les anars, il s'agit d'interventions politiques finalement assez traditionnelles, même si elles se proclament révolutionnaires. Elles se situent finalement assez dans la suite des luttes contre la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que finalement les gens se déterminent par rapport à des causes qui leur sont relativement extérieurs, et ils vont lutter pour ces causes. Alors, la cause de la guerre du Vietnam, comme il y a eu la guerre d'Algérie, ou le combat antifasciste, etc. Il s'agit de se battre pour une cause extérieure, et non pas de partir de ce qu'on est, finalement, pour remonter à autre chose. C'est finalement ce point-là qui va être battu en brèche, disons, à partir du mouvement du 22 mars, d'abord à Nanterre, mais ensuite dans d'autres villes, c'est que le mouvement du 22 mars part plutôt de ce qu'on est pour aller vers ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas devenir, mais en partant finalement de la réalité, de la situation des étudiants et d'une réalité non corporative, vue de façon non corporatiste, mais quand même sur la base d'un vécu étudiant. Donc par exemple les résidences universitaires, qu'est-ce qui nous emmerde dans les résidences universitaires? Bon, par exemple, l'une des premières luttes à la fac de droit, qui était pourtant pas en avance, droit et sciences éco, qui était pas en avance de ce point de vue-là, c'était, il y avait de plus en plus d'élèves boursiers, puisqu'il y avait de plus en plus d'étudiants, même la petite démocratisation qui faisait qu'il y avait de plus en plus d'étudiants boursiers. Moi, j'étais étudiant boursier. D'ailleurs, à cause de 68, après, on m'a supprimé ma bourse. J'étais étudiant boursier et ça les embêtait qu'il y ait des boursiers finalement. Et comme les amphis étaient surchargés, il y avait en première année, il devait y avoir pratiquement 1500 étudiants. Bien évidemment, personne n'était toujours, enfin, c'était pas possible de faire tenir les 1500 étudiants, mais en même temps, ils voulaient nous contrôler, dans tous les sens du terme, et ils voulaient pas que leur bourse, soit donnée à fond perdu, et donc ils avaient mis en place une sorte de contrôle par lettre alphabétique, où on devait aller de façon, impromptue. Ils disaient qu'aujourd'hui, par exemple, le lundi, ils avaient décidé que c'était la lettre C, tous les étudiants de la lettre C devaient aller pointer, voilà, et si on n'allait pas pointer, ils pouvaient nous sucrer la bourse. Donc ça avait été une première action, c'était de réagir contre ça. Voilà, donc typiquement des actions où on partait de notre situation, et ça a été théorisé ensuite dans le cadre par exemple de la brochure du mouvement du 22 mars, un peu sur le modèle allemand de Berlin, c'est-à-dire de ce qu'on appelait l'université critique.
Merci Jacques pour ce contexte du début 68, début mai 68 à Lyon. On te retrouve vendredi.
Voilà, alors je voulais juste dire quand même, bon, que je me fais un peu une pub. J'ai sorti un livre sur 68 aux éditions L'Harmattan qui s'appelle « Mai 68 et le maire en pan italien ». Donc qui est plus large que, évidemment, « Mai 68 à Lyon ». Voilà, et c'est aussi pour ça que je me suis repenché un peu sur mai 68 à Lyon, puisqu'il y a une partie sur mai 68 à Lyon dans le livre. Voilà.
Bah, du coup, tu peux peut-être dire ton nom si jamais les gens veulent trouver le livre, parce que là, s'ils ont juste le titre.
Bon, non, c'est Jacques Weinstein. Voilà, c'est Jacques Weinstein, c'est un peu compliqué. Je l'ai écrit avec Jacques Guigou, donc Jacques Guigou et Jacques Weinstein. Et autrement, on peut se procurer aussi une petite brochure qui s'appelle Mai 68 à Lyon. Tout ça, soit à la librairie La Griffe, métro Saxe-Gambetta, soit à la librairie à plus d'un titre, Quai de la Pêcherie. Bon, bah, à vendredi et bonne journée.
Voilà,
à
vendredi
tous.
Pour la suite de ces récits et témoignages sur mai 68.